Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur La Tribu. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale et on va parler de santé mentale dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale dans toute la France qui se déroule du 7 au 20 octobre 2024 et cette 35e édition a pour thème « En mouvement pour notre santé mentale ». Bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler de l'association ?
Alors bonjour, donc nous sommes Vent Portant 44, nous sommes basés à Saint-Nazaire. Et ça fait un an que nous commençons à arriver, en fait. C'est la première année.
Ok. Est-ce qu'on peut continuer juste en même temps se présenter, de dire qui vous êtes, votre prénom, et puis on fait le tour.
Donc moi, je m'appelle Émilie et au sein de l'association, je suis la vice-présidente.
Bonjour, donc moi je suis Mélouane, donc je suis infirmier en psychiatrie sur Saint-Nazaire, mais également trésorier de l'association Vent Portant.
Je suis Jean-Claude, adhérent et participant au conseil d'administration de l'association.
Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine, je suis secrétaire au Vent Portant 44. C'est la fusion entre le R, la couronnée et le phare qui est devenu le Vent Portant.
Et ces associations sont là et avec quel objectif ?
L'objectif, c'est de prendre les personnes en souffrance. Et puis de les aider à faire des activités, d'où le sujet, le mouvement, pas être isolé, faire des activités sportives, des activités intellectuelles, des activités loisirs, se changer les idées, quoi.
En fait, le but de l'association a pour soutenir, pour désamorcer et désacraliser la santé mentale, faire de la prévention, comme aujourd'hui auprès des jeunes, mais à tout public, en fait. Donc, en fait, c'est pour déconstruire, en fait, les maladies psychiques.
Ok. Alors, du coup, on peut y aller sur les définitions. Du coup, est-ce que la question de la santé mentale, c'est quoi ? On va déjà faire un tour avant de se dire, on essaye de construire en direct une définition commune. Alors, du coup, pour chacun, du coup, ça évoque quoi, la question de la santé ? Enfin, la santé mentale, ce serait quoi ?
Je peux vous parler vite fait. Moi, je m'appelle Marc-Antoine. Je suis un ancien pompier étant jeune volontaire. J'ai eu un très grave accident qui a fait que je suis passé de l'autre côté niveau santé. Et puis, la sauce m'a pris en main. Et grâce à mes ON, tout ça et tout, j'ai pu me reconstruire au niveau de la santé, au niveau de toute ma vie pour avancer, quoi.
Ok, donc la santé mentale, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être fragile et des fois on a besoin d'aide, de ce que vous
oui,
dites.
Oui, voilà, oui.
Alors, tout
mais
le monde.
Mais demander de l'aide, c'est toujours dur des fois. Okay. On a une fierté, on a un ego, et puis on se dit j'ai pas besoin d'aide, mais des fois il faut savoir le demander, quoi.
Okay.
Et il y a des lieux et des espaces pour ça.
D'accord, on en reparle. Alors du coup, si on continue, c'est la santé mentale, c'est quoi ?
Alors la santé mentale,
c'est
un état physique, mais aussi psychique. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. La santé mentale n'a pas d'âge, n'a pas de sexe, n'a pas de barrière. Ça peut toucher tout le monde, même des gens les plus forts peuvent, à un moment donné, avoir une faiblesse ou autre chose dans sa vie. Donc, voilà. Okay. Ça touche tout le monde. Et ça parle à tout le monde.
Les jeunes, votre définition, ce serait quoi de la santé mentale ?
Pour moi, c'est le bien-être avec son cerveau, se sentir bien avec soi-même et s'accepter.
Ok.
Mmh. Ouais, moi aussi, c'est un peu la même chose, mais se sentir bien en globalité dans son corps.
Mmh. J'ai pas quoi ajouter, oui, c'est ça en gros.
Les potes ont bien fait le travail.
Voilà,
etc. Ok. Jean-Claude, est-ce que vous voulez donner votre définition de la santé mentale ?
C'est comment se maintenir en bonne santé, c'est ça ? C'est ça le problème. C'est à travers les souffrances psychiques, comment se maintenir en bonne santé.
Ok.
C'est-à-dire que c'est prévenir plutôt que guérir, quoi.
Mais il y a un truc qu'il y a à dire aussi, c'est que la psychiatrie, c'est vu d'une certaine façon à la télé par rapport au sujet qu'on met. La psychiatrie, on voit des trucs, des chambres d'isolement, des trucs comme ça et tout. Mais il y a aussi des personnes en dépression, des personnes borderline, des personnes bipolaires. Des personnes qui sont équilibrées quand même, mais qui ont besoin de maintenir leur équilibre grâce aux assos, grâce aux activités, grâce aux psy, grâce aux médecins, grâce aux médicaments peut-être.
Okay. Voilà.
En fait, il y a tout un parcours de professionnels qui passent comme... mais ouais, on est infirmier psy, on passe par un infirmier psy, après on passe sur un psychiatre, après on est vraiment bien suivi. Et quand on en est en période de rétablissement, ben, on a un peu de latent, en fait. Donc, en fait, l'association nous permet de nous maintenir un lien... de ne pas s'isoler, de ne pas se replier sur soi-même et de continuer à, dans les activités et la réhabilitation sociale. Donc ça nous aide à nous affirmer, ça nous aide à prendre position, ça nous aide à prendre la mobilité, à être responsable et tout ça et tout.
Alors, ok, mais ouais, sur la question de la définition de la santé mentale. Alors après, j'ai triché, je suis allée regarder celle de l'OMS. Hein.
Et ben moi, je vais vous donner une définition autre que l'OMS, plutôt celle de terrain. Hein. Donc, ça fait 20 ans que je travaille en psychiatrie et ce qu'on peut voir dans les livres, c'est pas forcément, il y a du vrai forcément, mais c'est pas forcément ce qu'on peut voir, pardon, dans le au quotidien. La santé mentale, effectivement, ça peut être sur une période assez courte, en fait, ça peut toucher tout le monde, hein, comme vous l'avez bien évoqué. Il faut savoir qu'on a tous des fragilités, des points forts, et à un moment donné, ça peut effectivement basculer dans le champ de la santé mentale, dans le champ du pathologique, d'accord. Et là, c'est vraiment une histoire de curseur d'intensité, en fin de compte, des symptômes. Par exemple, on peut tous avoir une baisse de l'humeur, c'est quelque chose de normal. Quand ça devient pathologique, c'est quand si l'intensité est tellement intense que ça nous isole, en fin de compte, du monde extérieur. Et c'est là où là, on va parler plutôt de pathologie. Hein. Ceci dit, les pathologies ne sont pas à vie. Parfois, on se dit, le trouble psychique, oui, c'est quelque chose qu'on porte à vie. Pour certains, oui, il y a des pathologies, oui. Mais même stabilisé, ça n'empêche pas pour certains de travailler. On peut parler de patients psychotiques qui travaillent. D'ailleurs, il y a énormément de patients psychotiques qui travaillent dans des endroits adaptés ou non. Ouais. Hein, et les personnes névrosées, et on parle effectivement, les névroses, on va dire les dépressions, sont parfois plus invalidantes que des grosses psychoses comme la schizophrénie, par exemple. Vous voyez, alors ça peut.
Est-ce que ça parle le vocabulaire? Est-ce que ça parle? Est-ce que parce que là vous utilisez des termes.
Oui. Voilà. Enfin, faut pas hésiter à me reprendre.
Est-ce qu'on peut juste définir, voilà, par exemple les derniers mots que vous avez utilisés, voilà, est-ce qu'on peut expliquer?
Ouais. Bah alors la dépression, je pense que vous avez tous une image. Hein, c'est quelqu'un qui va s'isoler, avoir des idées noires, une humeur assez triste, qui va avoir du mal à faire des choses, d'accord? La schizophrénie, par exemple, là on est plus dans le champ de la psychose, où là c'est des personnes qui vont développer divers symptômes du style, ça peut être des hallucinations, donc quand on entend par exemple des choses, quand on voit des choses qui n'existent pas, il peut y avoir des délires aussi, hein, donc des choses qu'on construit, on peut se sentir persécuté. Alors souvent, peut-être qu'on amènera le sujet, mais si on parle des toxiques, le cannabis est propice à ce genre de choses. Donc, vous voyez, donc nous, on peut accueillir des fois des personnes qui sont délirantes, mais à cause des toxiques. Donc, elles sont pas forcément psychotiques, mais c'est à cause du produit qu'elles ont pris que finalement ça déclenche certains symptômes. Donc là, on a bon espoir de, une fois qu'on arrête la cause, que ça redevienne normal. Pour d'autres, la maladie fait que non, c'est bien ancré, c'est autre chose. Et là, on est parti sur des choses sur des années. Mais ça n'empêche pas non plus de travailler et les traitements qui existent.
La preuve, ça fait 10 mois, jour pour jour, aujourd'hui, que je travaille en ESAT, donc, et que je suis embauchée. Donc, on prend des personnes en psychique, qui ont des troubles psychiques, des maladies mentales, des personnes qui ont des handicaps physiques et moteurs. Donc, c'est pour ça que quand on travaille dans un milieu protégé, ça regroupe tout le monde.
Ok. Et alors, la différence entre troubles psychiques et là, est-ce que vous avez évoqué les troubles mentaux, du coup, c'est les maladies mentales, du coup?
C'est un peu lié quand même.
Oui,
effectivement. Ok, c'est la même chose.
Okay. On va faire simple, on va dire.
Ouais, puis, ok, ça marche.
Je voulais parler d'une chose aussi, de la santé mentale, il y a le problème de la drogue aussi. Parce qu'il y a beaucoup de drogue quand même. Et puis les jeunes se disent, ouais, je vais boire le week-end, c'est la fin de la semaine. Après, c'est tous les week-ends. Après, on commence la semaine. Après, on se dit, j'ai pas de problème, je bois. Puis après, on se rend compte qu'il y a un souci. Mais on se dit, oh, j'ai pas besoin de me faire aider. On a une fierté, on a un ego, on dit, mais c'est rien, je vais boire pour un anniversaire, je vais boire pour ça, je vais boire pour ci. Et puis un jour, ça devient une pathologie, Et c'est là qu'il faut, c'est là qu'il faut se dire, comme j'ai fait il y a 14 ans, ça fait 14 ans que je ne me drogue plus. Je me suis drogué à l'ecstasy, à la MDMA, au Subutex, à l'alcool, au cannabis. Ça m'a détruit, j'étais pompier volontaire avant. Et ça fait 14 ans depuis le 17 septembre que grâce à Maywen par exemple, grâce aux associations comme la Touline, le STTP, l'hôpital du jour, bah, qui me prennent en main, et puis bah, que bah, j'ai beaucoup mieux, quoi, je revis. Quoi, et puis je voulais me foutre en l'air, tellement la vie était dure avec la drogue. Et j'ai découvert bah, que la vie est belle sans addiction, sans se lever le matin et être en manque de quelque chose.
Et là, en fait, vous avez fait exactement le lien avec la thématique de cette année, qui est la question du mouvement. Voilà, mm-hmm. La grande thématique, vous êtes mis en mouvement, quoi.
Voilà, tout à fait.
Alors, on peut embrayer sur la question du mouvement. Mmh. Du coup, la grande thématique de cette année, c'est en mouvement pour notre santé mentale. Alors, ça évoque qu'est-ce que ça vous évoque sur en mouvement? Ça veut dire quoi en mouvement? Allez, on commence par les jeunes. Être en mouvement pour une bonne santé mentale, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important?
En mouvement, je dirais, déjà, c'est sortir de chez soi. Par exemple, marcher, rien que marcher, c'est être en mouvement. Okay. Après, si ça va plus loin, ça peut être faire du sport, faire des choses avec des gens, tout ça.
Ok, alors on peut donner des exemples pour chacun. Donc toi, par exemple, être en mouvement, ça veut dire, enfin, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes?
Moi, être en mouvement, ça me fait tout de suite penser au sport.
Ok, plus le sport. Bon, ouais. On fait le tour et puis on verra si on reviendra dessus. Nina?
Moi aussi, je fais du basket et même tous les matins pour aller au lycée, j'y vais à vélo et... C'est un moyen aussi de se retrouver avec soi-même avant de retrouver tout le monde, quoi.
Ok, donc pour le faire pour soi et puis de se retrouver. Loïs ?
Le mouvement, ça veut aussi me faire penser au sport. Mais moi, je fais pas de sport, mais je me dis, venir à la radio, ça peut peut-être aussi rentrer dedans. Faire, entre guillemets, bouger.
Ne pas rester isolé, quoi.
Ouais, voilà.
Ok.
Moi, je dirais, c'est prendre sa vie en main, c'est avoir des projets, des buts, des envies. Et c'est pas rester à rien faire devant à dîner toute la journée. Moi, j'ai des gâteaux à... C'est voir du monde, c'est l'autonomie, c'est important. Et moi, j'aime bien être seul. Mais entre être solitaire et l'isolement, il y a une différence.
Alors, ce serait quoi la différence?
Moi, être seul, ça me réénergie, ça me fait du bien. Et voir les copains, ça me fait du bien aussi. Mais il y a des gens qui sont isolés et qu'on personne, et qui vivent, pour moi, ils vivent pas, ils survivent. Donc, c'est un sujet qui est dur à traiter, quoi. Mais ouais, t'as un mot.
Bah, je vais laisser parler Jean-Claude.
Ouais, Jean-Claude. Alors, en mouvement.
Je parlais tous du mouvement, moi je parlais du blocage.
Ah, alors. Est-ce qu'il y a un peu d'envie de mouvement ou plutôt pas?
En blocage, ça veut dire la déprime, c'est un blocage du cerveau sur des choses précises. L'angoisse aussi, c'est un blocage sur quelque chose de précis. Et l'anxiété aussi, c'est un blocage. Donc quand le cerveau ne fonctionne pas correctement, il y a des blocages qui se font. Donc le mouvement, c'est quand un cerveau aussi peut bien fonctionner.
Voilà. Qui est la question du mouvement du cerveau.
C'est-à-dire que on vit aussi de mouvements, on dit les mouvements de l'âme aussi. Il y a l'âme qui bouge aussi dans la vie. Mais, voilà ce que je voulais dire, quoi. Il n'y a pas que le sport, il y a aussi l'âme qui bouge, quoi.
Ce qui se passe dans la tête, voilà. Et dans le... Ok.
Il y a aussi le bénévolat. Oui, on veut se mettre en mouvement pour le bénévolat. Et ça n'a pas d'âge. À votre âge, vous pouvez, vous les jeunes, parce que j'en sens, oui, je suis trop jeune, il n'y a pas d'excuse à tout âge de la vie pour faire de l'associative ou du bénévolat. Il n'y a pas de problème. C'est aussi se mettre en mouvement pour des causes égalitaires, contre le validisme, contre plein de choses.
Vous pouvez expliquer?
Alors, le validisme, c'est le handicap. En fait, c'est par exemple les gens qui sont discriminés par leur handicap, en fait. Donc, on se bat contre ça, contre les préjugés et le handicap. Ça peut être beaucoup les jeunes, j'entends l'écologie. Ils sont très, très actifs sur l'écologie. Donc ça aussi, il y a plusieurs... Et à être bénévole pour la santé mentale comme je fais aujourd'hui, en train de prévention auprès du jeune public qui nous écoute aujourd'hui. Donc voilà, mais il y a aussi le sport qui nous aide bien, mais pas le sport intensif. Ça peut être une marche pour aller faire ses courses, ça peut marcher sur le remblai pendant une demi-heure, et moi je suis une petite carotte, j'ai une petite carotte pour me motiver pour marcher, je me dis allez, je marche 30 minutes sur le remblai, et après tu prends un petit café, un petit thé, pas très content.
Eh ben c'est bien, si chacun a sa petite carotte. Mais ouais, ah pardon.
Oui, alors moi j'ai envie de dire que les défiscations de tous, ça regroupe un peu ça moi, dans ce qu'on utilise. En France, là, ces dernières années, justement, la psychiatrie, mais pas que, au sein de l'hôpital, on fait appel à des enseignants d'activité physique adaptée de plus en plus, pour deux raisons, parce que justement l'activité physique, elle va stimuler au niveau du cerveau certaines zones, notamment la zone du plaisir, et c'est ce qui va justement entraîner derrière des envies. D'accord. Et nous, on utilise au sein de l'hôpital l'activité physique adaptée pour, pas pour chercher la performance, loin de là, c'est plutôt pour donner justement une notion de plaisir, d'envie, et au quotidien, essayer de se mettre en mouvement, se lever le matin, faire les courses, préparer le repas, aller justement sur les réseaux associatifs. On dit, bah tiens, là on a un CA, hop, ça nous met voilà, des petites dates dans le calendrier, et ça nous oblige à sortir. Donc c'est ça aussi en mouvement. En mouvement, c'est aller avec les autres et faire des projets en commun. Voilà. Mais à côté, effectivement, l'activité physique, peu importe l'intensité, elle va forcément aussi influer sur la santé mentale et évidemment qu'on va tendre vers ça. Mais on cherche avant tout les interactions sociales, la vie de groupe et éviter l'isolement, contrairement à ce que pouvait dire Marc-Antoine, la solitude, c'est vraiment deux choses différentes. L'isolement, c'est vraiment qu'on est chez soi et qu'on ne peut plus voir personne. Et là, c'est très compliqué. Donc là, on bascule dans le pathologique. Et du coup, notre travail, c'est justement être en mouvement pour éviter de tomber dans le pathologique et de garder une stabilité sur le long terme.
Sachez, les jeunes aussi, qu'il faut fréquenter des bonnes personnes aussi pour aller bien. Une bonne personne, on en reviendra, mais c'est vital, quoi. C'est... Quand t'es mal entouré, quand t'es jeune... Tu vas avec des mauvais gens, tu fais pareil, tu prends des trucs. Après, tu te dis, c'est pas grave. Et tu te rends compte à un moment que tu vas trop loin. Et là, faut te faire aider. Et tu sais pas comment faire. T'as honte de demander parce que t'as une fierté. Mais dès que tu le fais, tu revis, quoi. T'as des projets, des envies. Et là, on en a un but. Après, je vous dérange pas, on a un but.
On est là pour parler.
Ouais, on a un but, c'est que à Alex, il y a un pôle de psychiatrie. Et il n'y a pas de cafétéria, c'est-à-dire que les patients voient leurs parents, leurs amis dans l'hôpital. Et nous, on veut ouvrir les cafettes, parce qu'il y a une cafette qui est là, mais qui est fermée. Et moi, je suis prêt à travailler gratuitement à la cafette pour que les gens de l'hôpital psychiatrique viennent voir leurs parents dans la cafette. Viennent boire un petit café, regarder la télé. Ça fait partie d'un de nos projets de la SAS, quoi.
En fait, il faut avoir des projets à court terme, réalisables. Par exemple, aujourd'hui, je vais me maquiller. Semaine prochaine, j'irai bien pornicher. Des courts termes et à long terme. Et ce qui est à sa force, en faisant des projets, qu'on se réinsère dans la vie globale, quoi. Donc, dans la vie qu'on est.
Une to-do list.
Oui, voilà. Mais une to-do list sans pression. Faut pas se mettre la pression.
Mais il faut ajouter que la vie, c'est d'abord l'espoir de l'avenir, quoi. Donc, si on n'a pas d'espoir, c'est difficile d'avoir des projets. Donc, d'abord, il faut restaurer l'espoir. Et ensuite, il faut restaurer la joie. Et avec la joie, on peut faire des projets. Voilà. Wow.
Alors, sur la question... Ça fait deux.
Non, parce que la bonne nouvelle, c'est que je sais pas si vous en aviez conscience, c'est que les filles, vous êtes parties au début quand même sur l'activité sportive, mais c'est que là, vous êtes en mouvement. Est-ce que vous en rendiez compte? Est-ce que vous le viviez comme ça, vous, au début? Est-ce que vous l'auriez mis dans le mouvement, vous, ce que vous êtes en train de faire là?
Oui, parce que juste sortir et faire une activité, pour moi, c'est un mouvement. Ou juste rester chez soi, pardon, et faire un truc qu'on aime, ça y est, un mouvement aussi.
Ok. Et Madeleine,
pas vu ça comme ça, ouais.
Et alors maintenant, est-ce que tu te dis
mais
que...
Oui, maintenant.
Ouais. Ah ouais. Mais en tout cas, là, on est tous en mouvement.
Oui.
Alors si on revient sur la question de l'activité, vous avez aussi évoqué la question de l'activité physique. Mm-hmm. Alors il y en a qui font du sport, il y en a qui en font pas. Il y en a qui font de l'activité physique sans que ce soit du... Enfin voilà, estampillé sport, on va dire. Mm-hmm. On va dire ça. Alors pour chacun, qu'est-ce que ça apporte, cette activité physique, on va dire, chez les jeunes, entre ceux qui font du sport et ceux qui font pas de sport. Voilà, est-ce que tu fais d'autres, on peut faire d'autres activités que d'être dans un club sportif. Alors on commence par celles qui font du sport.
Tu veux commencer?
Ok. Pour moi le basket, juste c'est se défouler, parce qu'après une journée de lycée, ça peut mettre la pression et juste tu te concentres sur toi-même et t'essaies de faire le maximum possible et ça c'est. Je trouve ça bien.
Se défouler, quoi. Ouais. La question de la défoule, je ne
tout
pense
laisser,
qu'à ça.
Tout lâcher.
Ok.
Ouais, moi, par exemple, je fais de la natation. Et j'ai un groupe de copines de la natation. Et du coup, y aller, donc j'y vais soit le lundi, soit le jeudi. Et y aller, bah, ça fait penser à autre chose, en fait. T'es plus dans cette bulle de lycée, travail, machin. Et pendant une heure, tu fais autre chose. Et ça fait du bien, en fait.
Ok. Mm-hmm. Loïs, est-ce que alors tu fais pas du sport dans un club sportif, mais est-ce que tu fais de l'activité physique? Et si tu en fais, est-ce que c'est seul ou est-ce que c'est avec d'autres par rapport à ce que les filles ont dit ou voilà.
Bah, j'en fais pas dans un club, mais j'en fais au lycée. Après, voilà, c'est la seule entre guillemets source de sport, je dirais comme ça.
Et du coup, pourquoi tu aimes ça?
Pourquoi j'aime?
Pourquoi t'en fais, ouais? Au lycée, parce que c'est obligatoire ou parce
que... Oui, c'est parce que c'est obligatoire.
Ok, je pensais que tu faisais à la S ou un truc comme ça.
Non, c'est les cours par semaine.
Et alors, est-ce que tu prends un peu de plaisir dans ces cours-là ou...
Entre guillemets, en ce moment, je suis pas vraiment à faire le sport. À être avec les autres, oui, mais pas forcément à faire le sport.
Et moi, justement, j'ai une question là-dessus. C'est... pourquoi t'en fais pas? Enfin, tu vois, est-ce que ça te manque ou au contraire, enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'à un moment t'en fais pas?
Parce que c'est pas ma priorité. Et je pense que mon temps libre, j'ai pas forcément envie de le consacrer au sport.
Mmh. Ok.
T'as d'autres centres d'intérêt.
Ouais.
Alors, il faut savoir qu'il y a 66% des jeunes de 11 à 17 ans qui ne pratiquent pas un sport et qui sont plus sur les écrans. Mmh.
Non. Alors, est-ce que vous faites partie des 66%?
Moi, je suis certainement sur les écrans, oui, ça, c'est sûr. Mais après, j'essaie de faire d'autres choses quand même. Donc, je vais au sport, je vais à la radio. Le week-end, je sors un peu avec mes potes. Donc, mm-hmm. Voilà, on essaie de trouver d'autres choses.
Très bien.
Oui, est-ce qu'un jour, vous voudrez prendre votre autonomie, être autonome chez vous? Vous vous sentez comment?
Bah, moi, ce sera pour l'année prochaine, pour le coup. Mais
alors,
vraiment,
prête?
Directement. Bah, je sais pas si je suis prête, mais je reste sur le moment. Hein. Mais oui, moi, j'ai hâte quand même d'avoir un appartement, d'être toute seule, tranquille. J'ai déjà eu mon permis, donc je suis un peu autonome.
Ah,
bravo.
Merci.
Bravo.
Et donc, voilà, ouais, j'ai hâte de voir.
Oui, bah, là, même si moi, c'est dans 2 ans.
Mais... je compte les jours.
Mais non, mais même si c'est bien de vivre avec sa famille, parce que voilà, on sait, machin.
Quand même, au bout d'un moment.
Mais non, mais
participe aux tâches ménagères, par exemple, ça, c'est se mettre en mouvement.
Ah oui.
Et les papas, maman, c'est bien.
Oui, bah oui.
Parce qu'on ne se rend jamais compte, mais pour des personnes qui ont eu des difficultés psychologiques, l'autonomie, c'est quelque chose d'important. Et il faut le mériter. Moi, maintenant, j'ai une curatelle qui m'aide, j'ai une infirmière qui m'aide, j'ai un docteur qui m'aide. Et j'ai le droit à l'autonomie complète, quoi. Et c'est un truc énorme, c'est magique, quoi. Donc profitez, les jeunes, et puis faites ce qu'il y a à faire pour avoir une bonne santé, et puis voyez du monde, mais sachez être autonome.
Alors l'activité, si bien sûr, je continue. Donc là on s'est dit pas forcément le besoin de l'activité physique parce qu'il y a d'autres centres d'intérêt. Alors Jean-Claude,
Moi j'ai pas beaucoup d'activité physique depuis très longtemps et j'ai repris une activité physique très récemment.
Laquelle?
Grâce à mon portant, c'est le Qigong.
Ah, voilà. Alors vous pouvez expliquer ce que c'est? Parce que moi je maîtrise pas le Qigong.
C'est très compliqué, c'est de la gestuelle, hein, des mouvements de gymnastique gestuelle, oui. C'est très compliqué à expliquer. Hein. Faudrait...
Ça ressemble... C'est dans une salle ou c'est à l'extérieur?
Non, c'est dans une salle.
Dans une salle.
Avec plusieurs personnes. Il n'y a qu'un professeur. Un professeur...
C'est
un professeur qui est adhérent, qui s'appelle David. C'est un infirmier. Et puis, on est 5 à 8 personnes à chaque séance. Et puis, on fait des mouvements, quoi.
Okay. Des mouvements lents, un peu comme du tai chi.
Ah,
des
tai chi, je vois.
Tai chi qigong, c'est ça.
C'est un art martial et c'est une gymnastique traditionnelle chinoise.
Voilà c'est ça.
C'est beaucoup sur la respiration, sur la maîtrise du souffle, voilà.
Il y a aussi la relaxation, il y a aussi les médiations musicales qu'on peut faire. Il y a plusieurs sortes de relaxation. Genre, moi qui habite près de la plage, j'ai fait du yoga, par contre, par exemple, sur la plage. Il y a tout ce travail comme psychologiquement. Quoi.
Mais je voudrais vous revenir sur mon passif sportif.
Ah.
Quand j'étais au lycée, je parle de mon lycée, parce qu'on est devant des jeunes, donc je parle de mon lycée. Hein.
qui n'est pas si lointain.
Oh, bah, quand même, ça fait quand même un sacré bail.
Vous n'êtes pas obligé.
Mais j'étais très bon sportif au niveau gymnastique, justement.
Ah.
Au BEPC, j'ai eu 20 sur 20 en gymnastique.
Gymnastique classique.
Classique, ouais. Ok. Gymnastique qu'on voit aux Jeux Olympiques, là. Gymnaste, cheval d'arçon, la corde, plein de choses comme ça, quoi. Au sol aussi, la gymnastique au sol. Et puis j'étais bon aussi en histoire-géographie. J'avais 14-7 à chaque fois, à chaque examen. Et puis en dessin, j'avais 20 sur 20 aussi. Donc, ça, c'est ma période d'école, quoi. Et après, j'ai arrêté le sport parce que j'ai eu une maladie au genou qui a nécessité 3 mois d'hospitalisation. C'est une infection. Et ensuite, j'ai arrêté progressivement le sport. C'était très difficile pour moi de continuer le sport.
Est-ce que ça vous manquait ?
Non, ça ne m'a pas manqué, mais j'ai sombré dans la drogue pendant un certain temps, quelques mois. Et ensuite, j'ai redécouvert la vie avec la philosophie. Mmh. Voilà.
On le sent, Jean-Claude.
Voilà. Donc, c'est pour ça que je veux dire que moi, j'ai fait des études d'histoire. Hein, j'ai fait la philosophie, j'ai fait du dessin. Donc, maintenant, je reprends le sport à mon âge. C'est très intéressant comme parcours. Donc, c'est assez cohérent, finalement.
Voilà. Il y a l'artiste, voilà. Et là, il y a le physique qui est l'artiste.
Et je continue le dessin, je continue l'histoire, géographie. Non, j'ai un peu laissé tomber, mais...
Et la question du dessin, c'est aussi la question d'être en mouvement, parce que
il y a le geste, il y a la pensée qui fait fonctionner la main. Voilà, c'est ça, c'est tout le cerveau qui fait fonctionner la main. Donc c'est important, quoi, le geste dans le dessin.
Mais ouais, sur l'activité sportive, parce que là, vous, en plus, vous avez une particularité, c'est qu'il y a le diplôme d'éducateur sportif, en plus d'infirmier.
Oui, effectivement, j'ai suivi une formation d'un an sur le sport adapté. Et on travaille beaucoup plus, comme je le disais tout à l'heure, sur les interactions sociales. Donc, même si toi, tu ne fais pas de sport, tu as peut-être aussi des réseaux. Si les réseaux te permettent de sortir de chez toi, de rencontrer des copains, de sortir de marché, voilà, d'avoir des projets, quelque part, t'es en mouvement et pour le champ de la santé mentale, c'est plutôt positif. À partir du moment où on va à l'encontre d'autres personnes et que qu'on fait des projets ensemble, c'est gagné parce qu'on s'isole pas. D'accord. Après, oui, effectivement, sur l'activité physique, moi, j'ai beaucoup travaillé justement sur la séance collective, c'est des sports co, avec des objectifs qui sont individualisés, mais la séance qui est très ritualisée, c'est une fois par semaine avec le même groupe. Derrière, on leur demande de s'investir aussi sur des tournois au sein de l'année, et également là cette année, on va aussi leur demander de participer, d'aller voir des matchs, par exemple le match de handball sur Saint-Nazaire ou à Nantes, le rugby à Saint-Nazaire, voilà qui mettent en lien aussi l'actualité. Par exemple, il y avait les JO, là, c'est pareil. On a fait une thématique JO avec notre partenaire Esprit Sport 44. C'est un partenaire qui travaille sur l'inclusion et sur le tout public. Et du coup, nous, on fait des passerelles comme ça, voilà, avec une association qui est spécialisée justement dans le sport adapté pour que derrière on puisse les réorienter vers d'autres clubs sur Saint-Nazaire, en sachant que la ville de Saint-Nazaire il met les moyens, on va dire ça, sur tout ce qui est mobilité, mais aussi sur tout ce qui est inclusion. Et il y a plusieurs clubs sur Saint-Nazaire qui ont signé une charte d'engagement sur justement le sport adapté, pour accueillir des personnes qui sont en souffrance psychique ou physique sur des créneaux. Donc il y a 8 ou 9 clubs, je crois, qui ont une charte. On a cette chance-là sur Saint-Nazaire d'avoir quand même un bon réseau. C'est assez facile, il y a beaucoup d'associations. Donc pour nous, c'est plus facile de travailler sur une ville comme Saint-Nazaire pour orienter en fonction aussi des besoins de chacun. C'est-à-dire que les besoins de Jean-Claude ne sont pas les mêmes que celui de Marc-Antoine ou d'Émilie ou de n'importe qui d'autre. Et les supports sont très variés. Donc, on peut dire par exemple la pêche, on fait de la pêche aussi. On peut dire waouh, c'est pas du sport. Finalement, c'est pas ça en fait l'essentiel. C'est de se retrouver à des horaires décalés, plutôt en soirée. Du coup, Marc-Antoine qui a du mal à se lever le matin, il préfère être en décalage. Ça correspond aussi à une population qui va peut-être venir sur des créneaux de 17h jusqu'à 22-23h. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, il y a des personnes qui viennent alors qu'elles ne viendraient pas sur un créneau de 9h midi. Donc c'est ça aussi. Nous adapter sur différents supports. Mais le sport, c'est vraiment la cohésion de groupe. Donc il y a les sports individuels, nous on cherche vraiment les sports de la cohésion de groupe, et c'est ça en fait.
On a déjà été à la Beaujoire, on a déjà été voir l'HBC Nantes, le handball, on fait plein de choses quoi. On fait une journée sport qui réunit beaucoup d'instituts, et puis on fait du handball, du
tchoukball. Vous connaissez ?
Oui. Alors, on fait à Escalado.
Eh ben voilà. Alors justement, on est beaucoup justement dans des sports qu'on ne connaît pas forcément dans le grand public, mais le tchoukball par exemple, c'est un sport qui est adapté vraiment des gamins de 2-3 ans jusqu'aux papy-mamies, jusqu'à les ados, nous, les personnes qui veulent en faire en compète, en sachant que c'est un sport sans contact. Et c'est vraiment ce qu'on va chercher nous, en fin de compte, à travers le sport adapté, c'est que des sports sans contact, mais qui permettent de mettre en même temps un jeune de 20 ans qui veut défoncer, qui veut se dépenser l'énergie physique.
Se dépenser, se défouler.
Ouais, non, mais il y en a qui cherchent ça. D'autres, on peut le dire, là, moi j'ai un patient, sur le vendredi matin, qui a une composante autistique, qui a sa bulle, donc il peut pas se mélanger avec les autres. Et on voit que quand il est mieux, finalement, il a une bulle qui va se résumer à 1m50, 2m. Quand il est moins bien, c'est une bulle, il quitte le terrain, quoi. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça nous permet aussi de voir aussi cliniquement, si la personne est bien ou pas bien. Et ça permet de travailler des fonctions qui vont être utilisées en dehors de la séance de sport. Faut que ce soit utilisé. En fait, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ce qu'on essaie de trouver, c'est que, à l'extérieur, sur le cadre de vie classique, ils puissent, s'organiser, au quotidien, aller rencontrer d'autres personnes, avoir des projets. Voilà.
Tout simplement, ça peut sauver des vies, quoi, qu'on se sente mieux, qu'on soit moins isolé. Pour les personnes isolées, quoi, ça peut faire que du bien, quoi.
Jean-Claude ?
Peut-être qu'on peut demander au jeune homme, là, je sais pas quoi, c'est comment ton prénom ?
Loris.
Loris, on peut demander quel support il utilise pour se bouger, c'est ça ? Parce qu'il l'a pas dit, finalement.
Bouger ? En mouvement.
Peut-être que c'est indiscret,
sans faire du sport. Tu as le droit de pas répondre.
Hein. Ouais. Marcher. Ah. Simplement.
Oui. Ça, tu aimes ça
Oui. Ouais. Enfin, ça va, j'aime bien aller me balader, des fois.
Et sachez que nous, on fait 105 km par an de rando. On fait 8 à 10 km par semaine, ou 15 des fois. À une période, on est 23. Et puis, on gère, quoi. On se retrouve, on a un groupe. Puis c'est très bien.
Ouais. Et alors, la barre Non, mais après, c'est vrai qu'aussi, Madeleine, tu viens d'avoir ton permis, mais Nina, toi, tu vas en vélo. Loris, toi, tu prends aussi beaucoup le bus. Et souvent, les transports en commun impliquent d'être en mouvement parce que il faut aller les chercher. Et donc, du coup, il n'empêche que souvent, quand on prend le bus, on marche aussi beaucoup. Oui. L'un ne va pas sans l'autre la plupart du temps.
Oui, parce que même il y a des jours où en fait je prends mon vélo pour aller à l'arrêt de bus.
Une autre petite astuce, c'est descendre un arrêt avant et marcher. Moi, c'est ma petite astuce. Je descends un arrêt avant et je marche jusqu'à chez moi.
Quand on va au lycée ou au collège. Non, si ça vous dit ça.
Moi, personnellement, j'ai banni la voiture de toute ma vie et j'ai fait que marcher, pratiquement.
Mais c'est vrai que la question de la marche, quand on écoute ou quand on entend ou quand on lit, Voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui ont écrit sur la marche, sur les randonnées, sur la question de du lien à la nature. Enfin voilà, je vous invite à aller en lire si vous avez de l'envie, parce que c'est vrai que il se passe des choses dans le cerveau, dans la tête, au-delà de ce que ça sécrète, ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est la dopamine, c'est ça.
Oui.
Mais du coup, au-delà de ça, c'est que quand on marche longtemps. Enfin, longtemps, c'est pas non plus 60 km par jour, hein, mais même quand on commence à passer 5 km, 6 km, et ben en fait, ça, il y a un moment, on se centre et on réfléchit à soi, et en fait, on a beaucoup de pensées, et ça permet aux pensées de s'organiser, et puis de faire évacuer tout ce qu'il y a dans sa tête. Enfin, ça, j'ai lu quelques livres là-dessus, ouais, et j'ai trouvé ça super chouette. Je suis très adepte de la marche, Loris, t'es pas tout seul.
Non, mais c'est vrai que ça nous aide à compresser, à moins ruminer. Par exemple, moi, c'est métro, boulot, dodo. Ben, quand je rentre ou quand je marche, je me dis, allez, je vais sortir du boulot, ça me décompresser, c'est un sas de décompression pour aller mieux. Et au plus vous marchez, au plus vous prenez du plaisir, et au plus vous serez détendu, et après vous passerez une bonne nuit.
Alors je me permets, parce qu'avec les filles on en a déjà discuté, hein, parce qu'on parle souvent des influenceurs ou influenceuses avec les jeunes, et des fois on donne pas toujours une bonne image, mais je sais que les filles, on a déjà parlé de Léna Situation, et du coup elle qui a par exemple beaucoup parlé, hein, de sa santé mentale sur ses réseaux, et elle hein, pratique, et elle le dit régulièrement, et elle dit que c'est vraiment important pour elle, la balade du matin, c'est-à-dire que tous les jours, tous les matins elle va se promener, et du coup c'est toujours intéressant aussi, parce que c'est un message qu'elle passe finalement sans... je sais pas si ça vous a...
Ouais,
c'est qu'en parlant de ça, moi, ça m'y fait un peu référence, en fait.
Si, mais j'ai pensé en plus. Mais en plus, elle poste une story, et vu qu'elle a beaucoup de...
Followers.
De followers, et bah, ça peut inciter les gens à faire pareil aussi.
Mais attention les jeunes, parce que ces fit girls-là, ça peut, des fois, ça peut être, ça peut faire de la dysmorphophobie et vous complexer sur vous, parce que vous dites, ah, si elle y arrive, je vais le faire, si. Ne vous comparez pas aux influenceurs et influenceuses, et ne croyez pas tout ce qu'il y a sur Internet.
Ouais, alors là, elle le fait pas dans cette optique-là. Là encore, elle le fait, et pour le coup, elle explique vraiment que c'est pour commencer sa journée. En fait, elle a vraiment besoin de ce temps seule avec elle-même à marcher pour. Donc c'est ça qui est intéressant.
Je pense que d'un côté, ça doit aider certains jeunes qui écoutent ça à se dire pourquoi elle le fait, et moi je le ferai pas, quoi. Par exemple, moi, qui suis plutôt très jeune ou très vieux, je suis entre les deux, mais j'ai commencé le sport très tôt, dès 8 ans. Dès 12-13 ans, j'ai commencé la formation de pompier. À 16 ans, j'étais intégré. Et puis à 20 ans, j'ai intégré un accident. Mais commencer jeune le sport, ça fait du bien aussi. Très jeune, et il n'y a pas que le sport, il y a le social. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Maintenant, il y a tout ça, quoi. Mais vivre avec ces générations, moi, quoi, qui passent, quoi.
Mais là, ce qu'on disait sur la marche, ce qui est intéressant, c'est de le présenter la marche plus finalement comme un remède à un petit rituel, et puis quelque chose qui permet de
avoir une routine,
de sortir sa tête, de respirer un petit peu, plus que le côté justement sportif, en fait. Et donc c'est des messages qui sont plutôt qui changent un peu ce qu'on est habitué à entendre.
Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une toute petite pause musicale.
Justement, les réseaux sociaux, parce que nous, on est une génération un peu rétro, on va dire ça comme ça.
Merci.
Il faut quand même
dire que je suis vieille. Merci.
Il faut quand même reconnaître que les réseaux sociaux, ça peut être utilisé à bon escient.
Bien
et justement,
sûr.
Si ça peut permettre de déstigmatiser, nous, c'est ce qu'on essaie de faire sur un autre plan. Mais au contraire, auprès des jeunes, on voit que justement, au niveau des collèges, lycées, on parle de harcèlement, on parle au niveau de la sexualité aussi. On commence à parler du handicap. Psychique, tout ça, c'est des sujets que nous, on n'avait pas il y a 20 ans, 30 ans, on n'avait pas. Donc, tant mieux, au contraire, il faut se saisir de ça. Après, il faut être vigilant. Mais
voilà.
Bon, vous n'êtes pas bête, donc vous comprenez. Voilà.
Alors, on fait une toute petite pause musicale et on se retrouve après pour continuer dans l'émission. Et moi, j'ai envie qu'on parle aussi de la question de l'effort. Et Jean-Claude, on va aller vers de la philosophie, je pense.
Et on a mis une chanson dans le thème, hein, c'est Too Many DJs et c'est Shake Your Body.
Body.
Ouais, j'ai fait un accent bizarre. Oh, right.
De retour dans la tribu en compagnie de Émilie, Léouen, Jean-Claude.
Waouh! Caroline qui est emmêlée,
Marc-Antoine, Loris, Nina et Madeleine, et Élise bien sûr. Du coup, toujours autour de l'émission, autour de la semaine de la santé mentale. Donc, on a échangé sur la question de l'activité physique juste avant la pause musicale. Et du coup, moi, je voulais vous poser la question, parce que Jean-Claude, on sent que la question de la philosophie est intéressante. Moi, je me dis, il y a la question aussi de l'effort. Voilà. Quel effort ça demande, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un effort quand on est en mouvement ? Jean-Claude.
Un effort.
Est-ce que ça demande un effort de
Le fait de naître, déjà, c'est un gros effort, je crois. Donc, la vie, c'est pas d'effort, hein, uniquement. Hein. C'est l'effort de penser, l'effort de parler, l'effort d'agir. C'est les trois formes de possibilités, hein, d'action. C'est ça, c'est les trois. Hein. Alors, l'essentiel étant l'action, évidemment.
Alors, pour les autres, la question, est-ce que la question, on a parlé de l'activité physique, est-ce que ça demande un effort? Est-ce que c'est important pour vous d'être dans l'effort, se projeter sur quelque chose qui demande un effort?
Pas facile celle-là,
on est en philosophie, on est en...
Un effort physique, peut-être pas, un effort mental peut-être, mais après ça dépend de chaque personne, je pense.
C'était une bonne question. De réponse.
Ouais, elle est trop compliquée. Je vois bien là, ça
non,
bug.
Mais après, c'est même pour un truc qu'on n'a pas envie de faire et on se dit, on fait l'effort d'y aller et finalement, ça nous fait du bien. Mm-hmm. On se dit, heureusement que j'ai fait l'effort d'y aller.
Moi, j'ai un truc à dire, c'est qu'il faut un déclic. Parce que moi, on me proposait du sport quand j'étais alcoolique drogué. La flemme, je préfère boire et tout. Mais dès que t'as le truc, eh ben, tu vas naturellement. Et dès que tu fais le truc, dès que tu marches, par exemple, 13, 16 kilomètres, tu te dis, je l'ai fait, et t'es fier de toi-même.
C'est la question de la fierté derrière.
Tu rentres le soir, tu te dis, je l'ai fait, et t'es décontracté parce que tu l'as fait déjà. Le sport, ça rend bien. Donc voilà, quoi, ça...
C'est un peu une auto-récompense, quoi.
Ouais, voilà. Ouais.
C'est comme moi, par exemple, je dis, ah, flemme, je dois faire le ménage. Je suis toute seule, je dois tout me taper. Bon, allez, au bout d'un quart d'heure, je me fixe un temps. Je me dis, pendant 20 minutes, je me donne à fond. Et après, c'est satisfaisant. Bon, bah, tu vois, allez, la prochaine fois, tu feras 30. La prochaine fois, c'est ça, c'est vraiment...
Est-ce que ça demande un effort vraiment très fort de se projeter sur des choses, la question d'être en mouvement, de se projeter à faire des choses qui nous embêtent?
Oui, des fois, ça dépend de nos humeurs, de nos envies, ça dépend comment t'as passé ta journée, si ça a été au travail, si ça a été au lycée, si ça a été avec tes parents, ça dépend de ton mood, en fait, dans comment tu te sens présentement et au moment où ça arrive, quoi.
Et là, moi, j'aurais une question aux trois adhérents de Montfortin. Vous êtes passé par différents stades de votre vie. Vous avez connu la maladie, les pertes de creux, maintenant vous êtes bien stabilisé, enfin voilà, vous revivez.
La résurrection.
C'est à quel moment on se rend compte ou pas que on est vraiment isolé, qu'on n'arrive plus justement à se mettre en mouvement? Et comment faire?
Eh ben moi, un jour, je me suis levé et je me suis dit, j'arrête tout, j'ai été aux urgences, j'aurais fait aidez-moi. Et le docteur, il m'a pris entre quatre yeux, il m'a dit, écoute. Il m'a dit des trucs très très durs à entendre, j'en ai pleuré. Mais c'est un déclic qui a fait que depuis ce jour-là, avec un gros travail sur moi-même et l'aide de la Touline, du CTP, je m'en suis sorti, quoi.
Moi, je suis arrivée devant mon médecin traitant en pleurs. Parce que j'avais vécu un décès, une séparation et une perte d'emploi. Et donc, c'est lui qui m'a dit, il faudrait que tu en parles à quelqu'un. Moi, travaillant dans la fonction hospitalière, j'ai eu de la chance de trouver la ressource. Donc, je me suis dit, hop, direction le CMP. Et là, au CMP, j'ai vidé mon sac devant un professionnel. Et c'est après, j'ai fait ma bouffée délirante, on m'a réorienté vers l'hôpital et c'est là que j'ai fait un hôpital de jour plus une thérapie qui m'a bien aidée parce que vous travaillez sur vous-même, vous travaillez sur vos traumas, vous travaillez sur vos compétences, vos qualités, vos valeurs aussi. Donc ça m'a permis un peu de savoir où j'en étais dans mes valeurs, mes capacités, mes défauts, et oublier le passé et aller de l'avant.
Oui, parce que même, ça va juste dans ce qu'on est en train de dire, même si on est au fond du trou, faut, même si on n'y pense pas, mais on a toujours des qualités. On a toujours des qualités. Et c'est vrai que l'idée, c'est à quel moment je peux alerter quelqu'un de mon entourage ou autre pour avoir besoin de l'aide. Est-ce que, à un moment donné, on se dit, bah non, j'ai besoin de personne.
Moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'était pendant le confinement. Je parlais avec ma cousine et mon ancien compagnon qui ont vu mon état se détériorer, qui ont vu que j'avais des paroles incohérentes. Donc en fait ils se sont dit, oula, ça se passe quelque chose, on va aller voir ce médecin traitant et on va lui en parler. C'est comme ça que la boucle, elle est rentrée dans la boucle en fait.
On a, je dis juste aux auditeurs qu'il y a du mouvement dans le studio. Parce que Jean-Claude a bien, n'importe quoi, Marc-Antoine, a très bien a vu que parfois on disait parle près du micro. Et là, il n'arrête pas de dire à Mehdi, parle près du micro. Voilà, le mouvement ne s'arrête jamais. Alors, Jean-Claude.
Ben moi, ça a commencé, ça me tourne très très tôt, hein, quand j'étais très jeune. Je m'isolais dans ma chambre, je fermais la porte à clé et tout ça. J'étais très, très, très isolé au niveau... C'était un peu voulu et un peu subi à la fois. Hein. Et ensuite, bon, je suis parti de la maison assez tôt, vers 17 ans, de la maison familiale. Hein, et je suis allé en fac à Nantes pendant 2 ans, en histoire-géographie. Et là, j'ai commencé à prendre des drogues. Ce qui m'a empêché de continuer l'histoire-géographie. Donc, je suis parti à Paris avec ma copine à l'époque. Et puis, et là, elle me donnait beaucoup de drogue. Hein, vous voyez, j'ai pas acheté grand-chose dans ma vie, mais j'ai beaucoup consommé. Et puis, ensuite, bon, ben, je travaillais à l'époque au Musée d'Art Moderne de Paris. Et je me suis dit un jour, bon, ça suffit, je peux pas continuer comme ça. C'est un mur, c'est un tunnel, c'est incroyable quoi, c'était pas faisable quoi, sinon je tombais dans le mur quoi. Et là, à ce moment-là, cette copine m'a donné une philosophie de la vie qui est le bouddhisme, et à partir de là j'ai rebondi. Donc j'ai fait un effort, j'ai rebondi et j'ai commencé à pratiquer le bouddhisme. Et ensuite, bon, je suis parti de Paris parce qu'il fallait que je quitte toutes les personnes qui étaient autour de moi. C'était très toxique. Hein. Et je suis parti à Marseille. Donc, j'avais une tante qui habitait près de Marseille et qui m'a inscrit à l'école des Beaux-Arts. Et j'ai fait 6 années d'école des Beaux-Arts. Voilà. Mais alors après, j'ai eu d'autres problèmes qui sont survenus. C'est le décès d'une proche qui m'a beaucoup perturbé. Et je croyais qu'on voulait me tuer finalement. Alors j'avais envie de me suicider, je pensais qu'on voulait me tuer, et ça devenait incohérent dans ma tête. Donc j'ai été voir un centre médico-psychologique de quartier à Marseille qui m'a donné des médicaments. Et puis là j'ai dit, mais ce médicament il est infernal, il est pire que la maladie quoi. Parce qu'en plus je le prenais très mal ce médicament, parce que je le mettais directement sur la langue le neuroleptique. Alors ça, j'avais des contractions et puis des immobilisations de la face, incroyable. Donc j'ai mal utilisé le médicament au début. Ensuite, bon, je suis parti de Marseille parce que je pouvais plus tenir. J'étais au 4e étage avec des envies de suicide, c'était impossible. Donc je suis parti dans la famille à Dijon. Et là, j'ai travaillé en sérigraphie pendant presque un an, avec plusieurs stages en hôpital psy, parce que je tombais dans les pommes au travail. Donc on m'a donné des tranquillisants, surtout des tranquillisants. On me disait, vous êtes un grand inquiet, monsieur, vous êtes un grand inquiet. Et ensuite, bon, j'ai commencé à faire de l'art thérapie à l'hôpital, et j'ai fait des centaines de dessins pendant cette art thérapie. J'ai exposé dans les galeries à Dijon et ailleurs. Et puis ensuite, bon, là je voyais beaucoup de psy, hein, je voyais un psychanalyste pendant trois fois par semaine pratiquement. Hein. Et ensuite, bon, j'ai quitté aussi Dijon parce que j'en pouvais plus non plus. De l'hôpital, j'en pouvais plus. Donc j'étais voir ma mère à Batte-sur-Mer. Et puis, je me suis occupé de ma mère pendant 6 ans, 7 ans. Et puis elle est morte un jour. Et bien, ça a encore recommencé le problème du décès. Alors j'ai très mal vécu pendant des années. Bon, j'ai été récupéré par la Touline, qui était à Guérande à l'époque. Et ensuite, bon, depuis, je suis à Saint-Nazaire depuis 2013, et je me sens de mieux en mieux. J'arrive à accepter mes problèmes, mes faiblesses et puis mes forces, voilà.
Alors du coup, là vous avez beaucoup évoqué, merci franchement pour le partage de votre parcours, c'est merci beaucoup. Du coup, là, il y a la question du soutien. Voilà, là dans ce que vous avez évoqué, il y a un moment des gens, ou en tout cas vous qui avez dit, bah là il faut faire quelque chose, il faut que je demande de l'aide, en gros. Mm-hmm. Est-ce que vous, les jeunes, c'est en tant qu'ados, c'est quelque chose qui vous paraît facile ou pas facile à faire? Alors sans parler de moments où ça va vraiment vraiment pas du tout, mais enfin voilà, si des fois ça vous arrive ou si ça vous est arrivé, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a appris à demander de l'aide et de savoir où vous pouvez en avoir?
Caroline, elle aime bien vous poser des questions compliquées. Hein,
non, c'est compliqué, mais est-ce qu'on nous a appris à nous demander de l'aide? Je sais pas, peut-être qu'on nous le dit, mais on nous l'apprend pas.
Ok.
Donc, c'est entre guillemets juste des paroles, donc est-ce que ça a vraiment une répercussion en nous? Je sais pas.
Parce que il y a beaucoup de sujets maintenant entre les jeunes, les garçons qui veulent une fille, les personnes de couleur. Y a
oui, sur la discrimination. Ouais. Mais c'est vrai que cette question-là, de demander de l'aide.
Bah après, c'est comme vous l'avez dit, l'ego pour demander de l'aide, c'est difficile, mais il faut faire l'effort de...
Moi, je pense, comme a dit Loris, on nous a souvent dit que c'est important, si on a un souci, de parler, d'en parler. Mm-hmm. Mais on ne nous a jamais vraiment, amené et accompagné vers ça. On nous a dit de le faire, mais pas vraiment aidé ni accompagné pour le faire.
Donc, est-ce que vous pensez, par exemple, qu'à l'école, on devrait vous apprendre ça? Ou vos parents? Enfin, peu importe. Je dis ça parce que, en fait, en ce moment, on parle beaucoup. C'est vrai, on parle plus de santé mentale. On parle aussi des compétences psychosociales. En gros, je fais ça très rapidement, mais c'est comment on outille les enfants ou les ados à avoir des ateliers pour avoir ce qu'on peut dire des compétences sociales. En fait, il y a des compétences émotionnelles, les compétences sociales et les compétences cognitives. Et dans les compétences psychosociales, il y en a une qui est sur la connaissance de soi. Du coup, comment on apprend à bien se connaître et comment, justement, une fois qu'on se connaît bien, on a repéré les besoins qu'on a. Parce qu'effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, personne n'a les mêmes besoins, en fait. Hein. Ça, c'est déjà, à l'adolescence, des fois, c'est un peu difficile parce qu'on a envie de ressembler aux autres. Mais en tout cas, dans la vie, jamais personne n'a les mêmes besoins. C'est impossible. Et le fait de se connaître soi-même et de repérer les besoins qu'on a, effectivement, moi, une personne peut avoir besoin de faire du sport, de se défouler à fond, ça va lui faire du bien. Une autre personne, ça ne va rien lui faire parce que, du coup, ce qui va lui faire du bien, c'est, je sais pas, d'aller jardiner, par exemple. Une fois qu'on l'a identifié, il y a une des compétences qui est savoir demander de l'aide, en fait. Est-ce que vous, par exemple, mais même les adultes, est-ce que vous auriez aimé qu'on vous apprenne ça à l'école? Est-ce que ça vous paraît hyper important de pas juste dire, en fait, faut parler, mais comment, en fait, comment et à qui?
C'est pas toujours facile de parler à un parent ou à un ami. Des fois, une personne neutre, ça permet d'avoir un regard extérieur sur la situation, en fait. Enfin, moi, je sais que comme ça, j'ai du mal parce que dans ma famille, on est des gens très taiseux. Donc, j'ai dit, mince, à qui je vais me confier? La famille, c'est mort et je veux pas les impliquer là-dedans. Je vais prendre une aide extérieure qui a un regard extérieur et qui va me permettre de me poser des questions sur moi-même, sur qui je suis, sur mes valeurs et sur mes qualités et les valeurs que je veux vraiment apporter, en fait.
Moi, je pense que c'est sur des personnes de confiance, avoir confiance. Dans une personne comme Méoen, par exemple, ou David, ou Damien, ou Marion, ou tout ça, et ben, on a confiance, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de préjugés, Et puis, ils nous font faire des activités avec plaisir. On sent une vocation pour moi. C'est comme être pompier ou infirmier. Et puis, on est aidé naturellement, quoi. Et ça fait du bien, quoi.
Moi aussi, oui. Je dois répondre.
Ah, si vous voulez.
Je vais utiliser une image. L'aide, qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur qui se trouve dans un ravin. Et au-dessus du ravin, il y a un monsieur qui tend une corde. Et cette corde, elle descend du ravin, et puis elle arrive jusqu'à la personne qui est au-dessous du ravin. Et elle apprend à la personne à monter le ravin. Voilà. Donc, quand on tombe dans un trou, il faut savoir rebondir, quoi, c'est tout. Voilà. Donc, il faut trouver les bonnes personnes, et puis les bons moments aussi, parce qu'il y a des moments favorables, des moments défavorables. Il y a des personnes favorables, personnes défavorables. Donc, c'est trouver les bonnes conditions.
Comment on les trouve, voilà. Ces personnes favorables?
Eh bien, c'est les bons amis, on appelle ça les bons amis. Ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Voilà.
En fait, les soignants, c'est un peu comme le béquille. C'est mon infirmier, Baptiste, qui me dit toujours... Nous sommes vos béquilles, mais la marche, pour apprendre à marcher avec des béquilles, c'est à nous à se mettre en mouvement et à aller faire les choses. Par exemple, si je suis pas bien ou vraiment, je me réfère à mon infirmier, par exemple. Il va me donner une clé ou un outil pour me sentir mieux. Mais ce sera toujours à moi de faire la démarche pour me sentir mieux, en fait.
Et vous, les jeunes, là, vous arrivez, alors sans forcément le partager, mais vous arrivez dans votre tête à vous dire « Ah ben, moi, si je me sens pas bien, j'irai vers cette personne, par exemple. » Est-ce que vous arrivez là, non ?
Non.
Non,
je sais pas.
Non, pas trop.
Non. Vous allez réfléchir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous venir.
Effectivement, alors on a les personnes, on va dire, bienveillantes, donc ça peut être la famille, pas toujours, mais c'est le cas assez souvent, ça peut être les bons copains, les bonnes copines. Mais c'est vrai que quand on est vraiment, vraiment mal, l'entourage, en voulant bien faire, n'apporte pas forcément les bonnes solutions. Donc c'est vrai que moi, je vous encourage vraiment, si vous avez des questions qui sont, voilà, qui vous chagrinent vraiment, enfin, qui vous bloque quelque part, d'aller vers un professionnel de santé. Alors, dans les collèges et lycées, il y a des infirmières déjà au sein des collèges et lycées, mais si c'est pas suffisant, ne pas hésiter justement à aller vers d'autres structures.
Alors, il y a la structure,
il y a la maison départementale des adolescents qui est là pour vous accueillir si vous avez un souci ou quoi que ce soit, un mal-être en vous, c'est anonyme. Vous pouvez venir soit vos parents, soit tout seul, vous ne serez pas jugé, vous serez accueilli par des infirmiers au 80 avenue de Gaulle à Saint-Nazaire.
Voilà, donc il y a des infirmiers, mais il n'y a pas que des infirmiers, il y a aussi des...
Il y a un peu de tout.
Voilà, et l'idée, c'est vraiment un lieu qui est pour les jeunes entre 11 et 25 ans. Donc voilà, la palette est large. Et du coup, vous pouvez effectivement y aller sans rendez-vous. Enfin, il y a des moments où vous pouvez y aller sans rendez-vous, vous pouvez y aller seul ou accompagné. Et il y a toujours un premier rendez-vous, voilà, un premier entretien où vous discutez de pourquoi vous êtes venu. Et c'est vrai qu'en tant qu'ado, des fois, on se dit, oh là là, mais c'est pas normal. Et puis des fois, c'est tout à fait normal. Donc des fois, ce premier entretien, il rassure et voilà, il n'y a pas de malaise, c'est les choses normales de l'adolescence, voilà. On va dire. Et quand, voilà, dans l'échange, il y a quelque chose qui est perçu comme où il faut aller un peu plus loin, où il y a besoin d'une aide supplémentaire, bah, du coup, il vous oriente. Soit vous continuez à y aller de temps en temps et voir un psychologue à la maison des ados, mais aussi vous pouvez être orienté vers d'autres structures s'il y a besoin supplémentaire. Donc c'est vraiment un lieu qui est très important, en tout cas qu'il faudrait que tous les jeunes et les ados connaissent.
Vous pouvez y aller sans jugement, vous ne serez pas jugé, vous serez bien reçu. Et vraiment, si vous ne restez pas seul, ne vous isolez pas, il y a des lieux pour ça, pour en parler, parce que c'est pas toujours facile aux parents ou aux amis. Des fois, on dit « Oh, laisse tomber, je veux pas en parler. Oh, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de là. » Là, vous y allez, on vous accueille et on vous prend tel que vous êtes.
Résumé parfait.
Et puis après, il y a des ados qui ont pas envie de passer ce pas-là, d'aller sur la structure. Alors c'est chouette quand il y a des structures, mais il y a des endroits aussi où il y a pas de structure, où les jeunes sont très loin de ces structures. Alors nous à Saint-Nazaire, on a la chance de l'avoir, mais c'est vrai quand on est à la campagne, c'est un peu plus loin. Et il y a les jeunes aussi sont très au fait sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet. Et il y a quand même aussi une structure qui s'appelle Fil Santé Jeunes, où du coup il y a des chats en direct aussi, où derrière il y a des psychologues et voilà sur toutes les questionnements au lieu de en lien avec la jeunesse et l'adolescence. Donc voilà, c'est des choses aussi où il y a beaucoup de réactivité et sur toutes les questions.
Il y a SOS Amitié aussi. Il y a SOS Amitié qui fait un chat. C'est ouvert sur un chat de 24 heures sur 24 en fait.
Ok.
Donc pour les jeunes qui aiment bien chatter, plus parler, qui n'ont pas envie de parler au téléphone, qui sont plus à l'aise à l'écrit, ils peuvent passer par des chats.
Mais je pense qu'on peut aussi régler le problème en parlant à sa propre famille, je crois. Enfin, ses parents, par exemple. Je pense que c'est la première chose à essayer. Si c'est pas possible, évidemment, on peut passer par les centres de soins. Oui.
Je pense qu'il faut plus des professionnels pour ça. Moi, je pense
on sent que c'est pas partagé. Ouais, donc là, on va laisser chacun choisir. En tout cas, il y a la question de la personne de confiance et puis du lieu d'écoute et du moment d'écoute de la personne à qui on parle. Eh bien, écoutez,
avant que tu fasses ta conclusion, moi je rappelle que du 7 au 20 octobre, c'est les semaines d'information sur la santé mentale. Il se passe plein de choses sur le département. Du coup, si vous voulez avoir le programme, vous pouvez aller sur Facebook, vous cherchez collectif ESAO. Et autrement, il y a une adresse mail, elle est un peu compliquée, mais j'essaierai de vous la mettre sur internet. C'est http://esao.com. Oh là, alors là, je vais vous la faire en détaché. Hein. STRIKINGLY.com. Je vous la mets sur le site de la tribu, je vous rassure, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais en tout cas, il y a le programme et vous verrez, il y a plein de choses de proposer sur tout le département jusqu'au 20 octobre.
Et puis on arrive à la fin, il va être temps de se dire au revoir, mais du coup moi je voulais vous remercier vraiment grandement d'avoir participé à cette émission là. Ça fait toujours avancer des choses avec les objectifs de l'association aussi de un peu désacraliser la question de la santé mentale. Merci, vous y avez pleinement contribué et notamment en partageant vos parcours, donc merci beaucoup. Merci à Madeleine, Nina et Loris d'avoir partagé ce moment. Voilà, maintenant vous êtes au taquet. Vivement l'année prochaine, en fait.
On re-signe.
On re-signe. Ah, on sent qu'Emilie, elle sera là. Merci Emilie, merci Mewen, merci Jean-Claude et merci Marc-Antoine. Merci Élise à la technique et à l'animation. Et puis, belle soirée à tous. Au revoir.
Au revoir.
C'est bien.